Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de Toulouse Métropole. Cette émission est dédiée entre autres aux grands sujets et aux grands projets de la métropole toulousaine, ceux qui concernent les domaines de compétences et les missions dont elle est en charge. Parmi celles-ci, il y a l'économie et la mise en œuvre des politiques économiques sur le territoire métropolitain. Pour les structurer, Toulouse Métropole a conçu une feuille de route dans divers domaines d'activité. Elle a pour horizon 2028 et il m'a semblé intéressant de vous présenter ce document et de faire un point sur les actions qui le sous-tendent. Point d'autant plus nécessaire que la commande publique joue un rôle essentiel dans l'activité économique nationale et donc métropolitaine. Les commandes que peut réaliser Toulouse Métropole sont donc cruciales et la baisse annoncée des dotations de l'État aux collectivités, après que le budget 2025 de la France a enfin été adopté, pose un certain nombre de questions pour les années à venir. Nous allons essayer d'y répondre lors de l'émission qui va suivre. Pour répondre à ces questions et faire le point sur la feuille de route économique de Toulouse Métropole, j'ai invité celui qui pilote sa mise en œuvre, Joseph Carl, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la prospective et de la contractualisation, de la coordination des politiques économiques et de la mise en œuvre de la feuille de route Ambition 2028. Bonjour Joseph Carl et bienvenue à vous aussi à Radio Présence, radio qui a commencé à émettre il y a 43 ans maintenant à Blagnac, la ville dont vous êtes le maire.
Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, c'est vrai que Blagnac a été le creuset d'un certain nombre d'initiatives. On ne sait peut-être pas, aujourd'hui on parle de la machine, on ne sait peut-être pas que la machine aussi a commencé à Blagnac. Et donc on est très fiers de ça, d'avoir accueilli, et notamment d'avoir accueilli Radio Présence à tous ses débuts.
En préambule, une question qui concerne justement autant le maire de Blagnac que le vice-président de Toulouse Métropole. Qu'est-ce qu'implique la baisse annoncée des dotations de l'État aux collectivités dans le budget de l'État 2025? Moins 2,2 milliards contre moins 5 précédemment dans le budget qu'avait proposé Michel Barnier. Donc c'est une économie moindre, si on peut dire. Mais tout de même, est-ce que pour Toulouse Métropole, une ville comme Blagnac, ça va avoir des conséquences qu'on peut déjà mesurer, sur lesquelles vous pouvez déjà un petit peu développer certains points?
Alors la première chose, c'est de ne pas limiter l'impact de ce budget 2025, que ce soit le budget Barnier ou le budget Bayrou. C'est pas simplement 5 milliards. Quand on rajoute à ça l'augmentation de la CNRACL, quand on ajoute à ça la baisse du remboursement du FCTVA, on est autour du double. C'est-à-dire qu'on est au plus près de 10 milliards que de 5 milliards. Alors, effectivement, dans les 10 milliards, il y en a 5 qui sont liés à un prélèvement. Et c'est vrai que le Sénat, dans sa sagesse, avait indiqué que 5 milliards, c'était trop et qu'il fallait qu'on soit plutôt sur une trajectoire de 2,2 milliards, ce qui a été retenu par le gouvernement Bayrou. Si je regarde les extrapolations telles qu'on les a faites pour la ville de Blagnac, dans la première épure, on était en gros sur 3 millions de dépenses supplémentaires ou de recettes qui seraient en moins. Aujourd'hui, nous estimons, mais on n'a pas encore tous les éléments parce que, si vous voulez, le passage de 5 milliards à 2 milliards 2, on ne sait pas comment il va être réparti entre les départements, les régions, les interco et les communes. Et on sait que les départements vont être les premiers bénéficiaires parce que c'est eux qui étaient les plus impactés et c'est eux qui, ayant en charge les politiques sociales, doivent être probablement les plus épargnés. Donc nous, on a fait un calcul et on dit on va passer peut-être de 3 à 2 millions en moins. Au niveau de la métropole, la première épure, c'était 45 millions d'euros. Aujourd'hui, on est véritablement dans l'incapacité de savoir à combien on sera. Donc, ce qui a été fait, aussi bien au niveau de la ville de Blagnac, au niveau de la métropole, c'est de partir de l'hypothèse la plus défavorable, c'est-à-dire que nous sommes partis de l'hypothèse du premier projet de loi de finances et sur lequel on était donc à moins 45 millions au niveau de la métropole et moins de 3 millions au niveau de la ville de Blagnac. Donc ça veut dire effectivement que ça impacte les politiques et notamment les politiques de développement économique. Je peux regarder les choses de façon différente entre Blagnac et la métropole. À Blagnac, nous avons décidé de ne pas modifier nos engagements et de ne pas modifier ce que nous avions adopté comme budget avant le 31 décembre. Nous ne baissons pas les aides aux associations, nous ne réduisons pas les frais de personnel, nous continuons nos politiques d'accompagnement dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, bref, notre feuille de route et l'engagement que nous avons pris, nous le tenons. C'est vrai que nous allons peut-être ralentir un petit peu certains programmes, mais pas les gros. Nous n'allons pas ralentir au Sud. C'est pas possible. Il y a trop de Blagnacaises, de Blagnacais et au-delà. Trop de métropolitains qui attendent 2027 avec impatience. Nous n'allons pas non plus remettre en cause un certain nombre d'opérations sur le tiers-lieu, etc. En revanche, peut-être allons-nous décaler quelques éléments. Donc, à Blagnac, nous sommes en capacité d'absorber ça, 3 millions, 2 millions, nous sommes en capacité de les absorber naturellement. Si on ne nous dit pas chaque année,
et oui,
vous allez à nouveau devoir passer à la caisse. Donc, si c'est une seule fois, si c'est one shot, comme disent les anglo-saxons, on va y arriver. Si, effectivement, c'est quelque chose qui est répétitif, ce sera plus compliqué. Ce n'est pas la même chose au niveau de la métropole.
Non.
Au niveau de la métropole, il y a un engagement important qui est l'engagement de la troisième ligne de métro, pour laquelle il y a des investissements lourds, bien sûr, et donc des financements extérieurs qui sont lourds. Pourquoi la métropole ne veut pas dégrader son positionnement financier, et notamment pourquoi la métropole ne veut pas dégrader la capacité de remboursement ou la durée de remboursement de sa dette? Parce que si elle le dégrade, les agences de notation pourraient déclasser la métropole, et donc à partir de là, nous aurions un renchérissement du coût des
intérêts.
Tout à fait, les intérêts seraient seraient supérieurs. Donc la démarche qui a été entreprise, c'est comment on va arriver à absorber c'est 45 millions sur la métropole. Et donc, voilà, l'hypothèse est enclenchée et quand on prendra des différentes composantes des politiques économiques, on verra dans chacun des domaines comment on a pu travailler.
Vous parlez justement des politiques économiques, vous êtes en charge de leur coordination à Toulouse Métropole. En quoi consiste votre rôle personnel dans ce domaine?
Alors, lorsqu'on regarde la compétence économique d'une métropole, en réalité, la compétence économique, elle est à la région. Elle n'est pas la métropole. En revanche, nous avons un travail important à faire, c'est celui d'être en capacité d'accueillir les entreprises. Mais ce n'est pas pour autant non plus qu'on ne va pas accompagner les jeunes entreprises et notamment les start-up. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas se préoccuper de la création des domaines d'activité qui sont dominants au niveau de la métropole. Et donc aujourd'hui, nous avons plusieurs composantes. Nous avons l'attractivité du territoire et l'international. Ça se passe autour de l'agence d'attractivité, ça se passe aussi autour de l'animation au mythe des grands congrès. Ça, c'est Jean-Claude Dardelet qui pilote ça et c'est une des composantes. Nous avons l'économie des grands pôles industriels, parce que nous avons certes l'aéronautique, l'espace, mais nous avons la santé, nous avons les mobilités, nous avons les nouvelles énergies. Et ça, ça se passe à Francazal, ça se passe au B612, ça se passe sur ces campus qui sont ces campus d'innovation. Et bien sûr, là-dedans, nous avons aussi tout ce qui touche aux start-up, donc aux pépinières d'entreprise. Et ça, c'est ma collègue Agnès Plagne-Bertrand qui l'a en responsabilité. Nous ne pouvons pas, et aujourd'hui, on en a la démonstration avec les grandes journées sur l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas être à côté du numérique à Toulouse. Et donc, nous avons à créer aussi cela, et c'est Bertrand Serpe, mon collègue, qui s'occupe de ça. Mais nous travaillons aussi sur les questions du bien manger, mais sur les questions de l'agroalimentaire, avec Jean-Jacques Bolzan. Et naturellement, nous ne pouvons pas non plus ne pas prendre en compte la dimension environnementale, la transition écologique, dans le pacte que nous avons passé avec les entreprises. C'est François Chollet qui pilote ça, et donc je suis à ses côtés. Et en fait, mon rôle, c'est que tous ces domaines-là, j'allais oublier l'économie sociale et solidaire, Nicole m'en voudrait beaucoup.
Nicole Miquel-Belot.
Et bien sûr, la question de l'emploi aussi, avec Isabelle Ferrer. Et tout ça, vous le voyez, c'est quelque chose qui doit être cohérent. Et les domaines ne sont pas, c'est pas chacun dans son couloir de nage.
Oui, tout ça est interconnecté.
Une cohérence. Et donc, mon rôle, c'est précisément, dans le cadre d'un comité de pilotage que j'ai proposé, qui a été validé par le président, nous avons donc un comité stratégique sur lequel nous échangeons pour que chaque élu en charge d'un domaine puisse échanger avec les autres et que nous voyons les complémentarités.
Eh bien, merci d'avoir déjà répondu à toutes ces questions pour planter le décor de nos échanges à venir sur la feuille de route économique de Toulouse Métropole. Nous allons en parler dans quelques minutes avec vous. Après un petit tour d'horizon de l'actualité métropolitaine, il est l'heure de retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu.
Commençons avec le bilan de la délinquance en Haute-Garonne pour l'année 2024 qui a été présenté. Globalement, les atteintes aux biens sont moins nombreuses, mais les agressions physiques, elles, progressent, surtout dans les transports en commun et dans la sphère familiale. Les violences physiques dans les transports se sont même envolées, plus de 16% par rapport à l'an passé. Un phénomène inquiétant qui s'explique en partie par une forte hausse de la fréquentation dans les transports toulousains et une montée globale de la violence dans la société. Ces violences se retrouvent aussi et surtout dans la sphère privée. Les violences intrafamiliales sont en hausse de 7,7% en 2024. Une hausse qui s'explique aussi parce que les victimes hésitent moins à porter plainte. Un bilan qui montre tout de même des améliorations sur les atteintes faites aux biens, vol à la tire, cambriolage. La délinquance baisse en Haute-Garonne. Les cambriolages stagnent, notamment dans les villes comme Tournefeuille, qui avait été montrée du doigt l'an passé. Les autorités ont enregistré une baisse de 2,8% d'atteinte aux biens l'an passé dans le département. Le vol de voitures, par exemple, a chuté de 9%. Autre phénomène notable, la baisse des rodéos urbains. La France célèbre cette semaine le 20e anniversaire de la loi handicap. Toulouse Métropole y participe à travers plusieurs événements. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est un des textes principaux qui régit les droits des personnes en situation de handicap depuis la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. À l'occasion des 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Une série d'événements est organisée, parcours de sensibilisation en fauteuil roulant, initiation à la langue des signes française, des sensibilisations au handicap visuel ou encore des tables rondes. L'armée missionne Airbus pour un nouvel avion de patrouille maritime. Il s'agit d'un contrat d'étude pour lancer son prochain grand avion de patrouille maritime, une version militarisée du fameux A321XLR, un avion qui permet de couvrir l'ensemble des besoins opérationnels de la marine nationale, principalement dans la lutte anti-sous-marine et anti-navire, de la basse à la haute intensité, ainsi qu'au recueil de renseignements. Cette version militarisée de l'A321XLR est destiné à remplacer la flotte d'Atlantique 2 de l'armée française. Un nouveau tournant aussi dans l'activité de l'avionneur européen à Toulouse, un an et demi après l'inauguration de la ligne d'assemblage de l'A321 en lieu et place de l'A380. Les salariés vont pouvoir rassembler ce nouvel avion dans la ville rose. Restons dans les airs avec ce classement qui positionne l'aéroport de Toulouse-Blagnac parmi les moins fiables de France en 2024. C'est ce que révèle un site spécialisé dans les déplacements professionnels à l'international, déplacementspro.com. Problèmes techniques, retards, annulations. Si l'aéroport toulousain n'apparaît pas dans le top 10 des retardataires, il est en revanche mal placé lorsqu'il s'agit des annulations de vol. Sur les 33 670 avions prévus au décollage de Blagnac, 445 ont été annulés. En cause parfois des problèmes techniques, mais surtout des mouvements sociaux et des grèves. L'aéroport Toulouse-Blagnac s'est en revanche récemment illustré de manière plus positive en étoffant son offre de services en ligne, comme l'achat des billets coupe-fil.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce panorama de l'actualité métropolitaine. Joseph Carl, peut-être une réaction à ces diverses informations. J'imagine que celles qui concernent Airbus et l'aéroport de Toulouse-Blagnac ont particulièrement retenu votre attention, même si vous étiez sans doute déjà au courant.
Tout à fait, oui. Donc, bien sûr, je pense que Airbus a une capacité de rebond qui est tout à fait extraordinaire. On parle là de l'usine du 380. Moi, je me souviens quand la chaîne du 380 a été arrêtée, tout le monde a dit « Ouh là là, c'est une catastrophe ». J'avais dit « Vous inquiétez pas, c'est une entreprise extraordinaire, elle va être capable de rebondir ». Et effectivement, l'usine a été recyclée pour faire la chaîne d'assemblage de la série des 321, et notamment du Néo. Et ce qu'ils ont fait, et là aussi on voit l'agilité, c'est que non seulement ils ont prévu une chaîne, mais ils vont pouvoir faire une deuxième chaîne. Et là, cet avion, il pourra aussi être assemblé à cet endroit-là. Donc voilà, moi je le dis, moi, je suis très fier que Airbus soit à Blagnac, et donc on a de la chance. L'aéroport, c'est un peu plus désagréable de voir que l'on est considéré comme mal noté. C'est vrai qu'il faut que cet aéroport, qui a une chance exceptionnelle, hein, qui est à la fois un aéroport industriel et un aéroport de passagers, il faut véritablement que cet aéroport enclenche une dynamique. Alors c'est vrai, on le voit aujourd'hui avec des vols internationaux. C'est vrai aussi qu'il va falloir qu'on soit attentif à ce que les compagnies ne n'allez pas s'implanter ailleurs et reste le plus possible sur notre ville de Toulouse. Donc il y aura probablement des choses à regarder du côté de l'aéroport.
Merci pour ces réactions et compléments d'information à l'actualité métropolitaine. Retour maintenant à notre sujet du jour et à notre point sur la feuille de route économique de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La seconde partie de Métropole et vous, toujours en compagnie de Joseph Carl, maire de Blagnac, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la prospective et de la contractualisation, de la coordination des politiques économiques et de la mise en œuvre de la feuille de route Ambition 2028. À propos de cette feuille de route, autour de quelles actions, quels projets est-elle structurée dans les domaines qu'elle concerne ?
Alors, peut-être que pour poser cela, je vais venir sur le baromètre Arthur Lloyd. On a ce cabinet, Arthur Lloyd, qui, tous les ans, sur un nombre de critères importants, classe les villes. Et lorsqu'on regarde le classement des grandes métropoles, des grandes, puisqu'il y a un classement des grandes métropoles, des métropoles moyennes et des plus petites. Dans les grandes métropoles, c'est vrai que Toulouse arrive en tête sur les quatre premiers indices. Nous sommes premiers trois fois. Nous sommes premiers sur la question de l'attractivité de la ville. Nous sommes premiers sur la qualité de vie. Nous sommes premiers sur le montant des loyers. Nous sommes en revanche sixième sur notre capacité d'accueil. Donc ça veut dire que dans notre feuille de route, il faut qu'on soit attentif, un, à préserver l'attractivité telle qu'on l'a posée. C'est-à-dire que nous avons la chance, et c'est le sens des campus que nous avons positionnés, nous avons la chance d'avoir des labos de recherche qui, dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'innovation, sont exemplaires, il faut les accompagner. Nous avons des industries que nous devons suivre et que nous devons accompagner. Et puis, il faut que tout ça, on le fasse savoir. Et au fond, la question de l'agence d'attractivité, c'est bien celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, Toulouse, qui a ce classement objectif, puisque ce n'est pas nous qui l'avons fait, ne communique pas peut-être suffisamment sur tout ça. Et donc, c'est des choses qu'il faut que l'on mette en place autour de cette agence d'attractivité. Mais bien sûr, il y a une autre question qui nous est posée, c'est la capacité d'accueillir. Donc, ça signifie qu'il faut qu'on travaille sur les aménagements. Francazal, par exemple, est un site sur lequel nous devons procéder aux aménagements pour faire venir un certain nombre de startups. Et donc, on a fait un travail où on a identifié tous les sites sur lesquels on était en capacité d'accueillir de l'activité économique. Donc ça, c'est un des éléments importants de notre feuille de route. La deuxième, c'est de regarder sur les domaines sur lesquels, a priori, comme ça, on ne nous positionne pas. Je pense à la santé, sur lequel nous avons là aussi des capacités tout à fait intéressantes. Le climat, là aussi, nous avons des choses importantes, la météo. Tout cela doit effectivement être positionné comme le sont l'aéronautique et l'espace. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette feuille de route, par rapport à celle que nous avions présentée en 2024, nous avons introduit une dimension supplémentaire qui est la dimension des transitions. Avec François Chollet, mais avec aussi toute l'équipe qui s'occupe de l'économie, nous avons considéré que le pacte climat 2030 était déterminant. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous étions avec les présidents des clubs d'entreprise. Et il y avait plusieurs clubs d'entreprise qui étaient là, où nous avons ensemble travaillé et où on a senti de la part des entreprises un véritable engagement autour de la question de la transition, autour de la question du climat, autour de la transition de la réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une dimension qui n'avait pas forcément été suffisamment positionnée et que nous avons renforcée. La deuxième chose, c'est qu'à la demande du président Moudenc, mais aussi du président du Sicoval et du Muretin, nous avons créé un groupe de réflexion avec précisément les collègues élus du Muretin, du Sicoval, mais aussi des intercommunalités de plus petite taille.
Intercommunalités voisines.
Voisines. Et nous avons donc décidé d'écrire ensemble le récit ou l'ambition du développement économique que nous souhaitions pour, non pas cette métropole au sens administratif, mais cette métropole au sens géographique, oui, c'est-à-dire l'aire urbaine.
Aussi, hein.
L'aire urbaine. Et donc, on est en train de réfléchir. Bien sûr, ce travail doit être complété par la présence des entrepreneurs. C'est-à-dire que nous allons avancer et puis nous allons travailler avec les chefs d'entreprise pour pouvoir leur demander d'améliorer encore notre vision et notre position. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. Je dois rencontrer les trois présidents bientôt pour leur dire « voilà vers quoi on va, vers où on va », de telle sorte qu'ils me disent « ok, continue ou pas ». Et donc, on souhaite avancer sur ce sujet-là.
Oui, parce qu'à la base, dans cette feuille de route économique, il y avait 7 grandes ambitions. Alors, c'était ambition singulière, mais il y en a plusieurs, bien entendu. 7 grandes ambitions qui s'appuyaient sur 23 actions. On peut faire un point sur les principales, évidemment. Hein. Est-ce que ça a suivi le cours prévu? Est-ce que ça a pu être ralenti par les diverses crises que nous avons connues, successives, hein, depuis celle du Covid? Mais il y a la guerre en Ukraine, il y a la crise énergétique. Aujourd'hui, il y a la baisse des dotations de l'État. Comment tout ça va-t-il avoir un effet, a priori négatif, sur les ambitions qui ont été lancées et décrétées?
Alors, les actions ont été engagées. Les actions ont effectivement été engagées. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les campus, dans chacun des campus, on a engagé les actions telles qu'elles étaient prévues, que ce soit Ville Agile, que ce soit etc. Mais en revanche, le délai de mesure des résultats de ces actions, on est en train de le préparer. Et donc moi, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on puisse mesurer le résultat. Mais on est dans des processus dans lesquels vous décidez de mettre une action, bon, on va prendre un exemple, on va dire, on voulait accueillir les grands congrès. Il y a eu un certain nombre de grands congrès qui ont été effectivement organisés au MIT. Lorsqu'on regarde la durée nécessaire à l'organisation d'un congrès d'envergure, c'est pratiquement 3 ans, entre le moment où on le décide. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on prenne maintenant le temps, et c'est ce qu'on va faire, de mesurer les effets. De la même façon, on a des contrats de partenariat avec des territoires qui sont les territoires extérieurs où on a signé avec eux ces engagements. Lors de la prochaine commission prospective, nous allons présenter en les faisant venir avec nos partenaires là où on allait. Ce qui est compliqué lorsqu'on met en œuvre ces politiques, c'est qu'effectivement, on n'a pas la visibilité et le résultat immédiat. Je veux dire, si vous construisez une route, vous voyez les kilomètres que vous avez réalisés et ça se voit. Quand vous faites du développement économique, il y a un moment où il est difficile de mesurer le résultat. Mais je reviendrai quand on aura fait ce travail, si vous m'invitez à nouveau.
Certainement.
Pour vous présenter effectivement, action par action, les résultats auxquels nous sommes arrivés.
La mise en œuvre de la feuille de route Ambition 2028, vous en êtes également en charge. Alors je vous ai posé la question, quel est votre rôle en ce qui concerne les politiques économiques dans la mise en œuvre de la feuille de route? Quel rôle jouez-vous? Là encore, c'est de la coordination?
Oui, tout à fait.
C'est de la réorientation peut-être aussi?
Alors, c'est le travail que font mes collègues. Hein. Chacun dans son domaine, il est responsable des actions de la feuille de route. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on a organisé ça autour d'un comité stratégique. Et moi, mon rôle, c'est de dire, est-ce que là, il faut qu'on réoriente? Est-ce que là, on maintient? Voilà. Je vais prendre un exemple. Hein. Nous avons des pépinières d'entreprise. Aujourd'hui, il y a des pépinières qui ne remplissent pas la fonction qu'elles devaient remplir. Et donc, on a décidé ensemble de remettre en question ces pépinières pour aller permettre aux startups de se positionner plus près des différents campus parce que c'est là qu'elles vont trouver la suite à donner à leur action.
Alors, Toulouse est une des métropoles dont le secteur économique, l'économie, se porte le mieux en France. Le dire, c'est pas se vanter, hein, c'est une réalité. Est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir, compte tenu des atouts dont dispose notre territoire et des perspectives pour les années à venir? Et qu'est-ce qui pourrait être un frein aujourd'hui? Moi, je pense par exemple, on sait une des conséquences de l'attractivité de la ville, c'est qu'il y a de plus en plus d'habitants, mais il faut les loger. Est-ce que ça, ce n'est pas un des risques qui peut freiner le développement économique de notre territoire aujourd'hui?
Alors, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que le développement économique, ou les entreprises dans leur choix, bien sûr, elles font le choix d'abord de l'attractivité et de la capacité à rencontrer ce dont elles ont besoin pour répondre à leur production ou à la mise en œuvre de leur dispositif. Mais il y a une autre question qui se pose derrière, c'est est-ce que je vais pouvoir faire venir les compétences qui sont nécessaires? Pour ça, il faut que je les loge. Donc, on a une question sur la capacité d'accueil. Or, nous savons, et le PLUIH l'a bien mis en avant, nous avons cette attractivité, plus 9 000 habitants tous les ans. Il faut que cette politique du logement, et le président Moudenc là-dessus est vraiment très porteur
très
de cette
conscient,
volonté, oui. De cette ambition. Nous allons faire 75 000 logements dans les 10 ans. Et lorsque l'on parle du PLUIH avec le président, avec ma collègue Karine Traval-Michelet aussi qui porte ça.
La maire de Colomiers qui est vice-présidente en charge du logement.
Moi, je me reconnais complètement dans ce qu'il faut avancer. Après, il y a une autre question qui se pose. C'est aussi la question des mobilités. C'est-à-dire qu'on a en fait la contrepartie de cette dynamique exceptionnelle de notre territoire. Alors qu'on a de plus en plus de gens, donc ça veut dire que, heureusement, la troisième ligne de métro va arriver. Alors en 2028, les choses iront mieux, mais cette volonté d'avoir cette troisième ligne de métro, plus le travail assez exceptionnel que fait Tisséo aujourd'hui dans la mise en œuvre d'accompagnement sur le transport collectif, et c'est tout ça qui fait l'attractivité. Et lorsque je reprends le classement d'Arthur Lloyd, c'est un peu là-dessus qu'il nous dit, attendez.
Attention.
Attention, vous êtes très attractif, vous avez une très bonne qualité de vie, vous avez des compétences, mais attention, il va falloir que vous soyez attentif à améliorer la capacité d'accueil des entreprises. Donc ça veut dire que dans la feuille de route, il faut que cette dimension devienne une dimension prioritaire pour qu'on fasse en sorte qu'on soit premier sur les 4 critères du classement Arthur Lloyd.
Et comment préserver la qualité de vie dans ce contexte aussi? C'est pas si simple.
C'est pas simple et c'est pour ça que la prise en compte des transitions devient essentielle. C'est-à-dire que la qualité de vie, elle passera par là. On dit qu'il faut faire 75 000 logements. Attention, 75 000 logements, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus qu'on ait tout imperméabilisé. Il faut préserver les espaces naturels. Et donc, il faut accepter, je le dis à nos concitoyens, ben, il va falloir accepter de lever un peu la tête.
Et donc, de construire un peu plus en hauteur.
Voilà, de plus faire de l'étalement urbain, mais de faire un peu plus de construction en hauteur.
Vaste chantier et beaucoup de questions qui se posent derrière. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Joseph Karl, d'en avoir été l'invité. Et merci d'avoir fait pour nous ce point sur la feuille de route économique de Toulouse Métropole et sur les actions qui la structurent. Le document peut être consulté en ligne sur le site www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.